Allô Laura.
Allô.
Turcot.
Bonjour.
YouTuber.
Oui.
Sur l'histoire.
Oui.
L'histoire nous le dira, c'est
exactement.
Ça?
Exactement. Une petite chaîne d'histoire YouTube.
De quoi, excuse-moi?
Une petite chaîne d'histoire sur YouTube.
C'est une petite.
Regarde, moi je trouve que
les deux, on a écouté une vidéo la même, comme un peu pour se mettre dans le bain de ce qu'on allait parler aujourd'hui. C'est fou comment, de ce qu'on a parlé, discuté, Joanie et moi, on n'était pas des grands fans de nos cours d'histoire. Et pourtant, tu as réussi à m'accrocher, puis je suis en train de me découvrir une passion.
Tant mieux, vraiment. C'est une bonne chose.
Fait que je suis vraiment excitée que tu sois là. Là, ce que tu viens de nous dire avant qu'on press record, c'est que tu nous as préparé comment t'as dit?
Ben, une histoire de la sexualité des origines à nos jours. Parce qu'en fait, quand on m'a invité, on m'a dit ça serait le fun que tu fasses ça. Fait que là, je fais oui, mais avez-vous un domaine spécifique de l'histoire de la sexualité parce que c'est large. Puis on m'a dit non, vas-y très largement. Fait que j'ai fait ok, défi. Fait qu'on va y aller des origines à nos jours. Mais tu sais, quand je dis des origines, là, je vais pas commencer avec la préhistoire. Je vais vous amener en Grèce antique. Puis si tout va bien, on va se rendre jusqu'au 19e siècle. Puis si les gens aiment ça, je pourrais revenir éventuellement pour faire le 20e. Parce que ça, c'est toute une autre histoire.
Ok.
Oui.
J'ai pas trop posé de questions.
À lever sa main, tout le monde.
J'ai levé ma main. Moi, c'est ça. Moi, l'histoire, ça m'intéressait pas du tout. Mais ce matin, ça m'a vraiment beaucoup intéressée quand tu parlais. Parce que t'as vraiment une belle voix, premièrement, je veux juste te le dire. T'as un beau ton qui est apaisant. Merci. Puis j'avais aucune idée que c'était toi parce que dans ma tête, j'avais vraiment un monsieur. Dans mes cours d'histoire, j'avais comme le monsieur qui était endormant. Tu sais, vraiment, l'histoire. Puis c'était long, puis c'était plat. Puis là, toi, tu parlais, puis j'étais comme « Wow! » Hein? C'est bon, c'est de la drive. Fait que merci vraiment. Puis, l'histoire antique, juste être sûr, là, c'est dans quelle année?
OK, fait qu'en gros, en histoire, on considère qu'il y a quatre grandes périodes. La première, c'est l'Antiquité.
Okay.
Ça va grossièrement de la Grèce antique, tu sais, en gros, les Jeux olympiques antiques jusqu'à la Rome antique. Après ça, il y a ce qu'on appelle le Moyen-Âge, qui va de la chute de l'Empire romain jusqu'à la découverte de l'Amérique environ, la Renaissance. Après, troisième période, l'époque moderne, donc ça va de la Renaissance ou de la découverte de l'imprimerie jusqu'à la Révolution française, 1789. Oh. Puis nous, actuellement, on est dans la quatrième période, ce qu'on appelle l'époque contemporaine, qui va du 19e siècle jusqu'au 21e siècle aujourd'hui. Fait que ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est qu'on part de la Grèce antique, puis on s'en va jusqu'au 19e siècle pour voir ça. Mais c'est pas grave, si à un moment donné, vous êtes perdu, tu sais, quand je parle du 14e siècle, ça veut dire les années 1300, etc., n'hésitez pas, là. Puis je vais essayer de donner des repères, puis on va y aller aussi avec la culture pop, parce qu'on s'entend que l'histoire, là, c'est de la culture pop, puis il y a tellement de films historiques à gauche et à droite. Tu sais, quand je vais parler de la Grèce antique, vous pouvez avoir dans la tête le film 300. Est-ce que ça vous dit quelque chose? 300.
Oui.
Les gars, là, justement, avec des gros abs qui se battent quasiment à moitié nus, là.
J'ai rencontré Gerard Butler, puis je prends toutes les opportunités pour pouvoir le plugger, puis j'en ai vu une bonne site, fait que je le dis. Continue.
Je pensais que tu vas dire quelque chose sur lui.
Non,
genre,
pas du
il était vraiment gentil.
Oui, aussi.
Mais il avait tourné à Montréal, si je me souviens bien, 300
ça
en plus.
Ça se peut.
Mais je commence avec vous aujourd'hui, en fait, sur la Grèce antique, parce que je me suis amusé à regarder un petit peu. D'ailleurs, avant que je commence, s'il y a des gens qui vont vouloir aller plus loin, je vous apporte un livre. Ça s'appelle Sex Story, la première histoire de la sexualité en BD. C'est vraiment passionnant. Puis, quand vous m'avez envoyé ce mandat-là, j'ai fait, faut que ce soit simple, accessible et drôle.
C'est
édité par Guy Saint-Jean au Québec. Au départ, ça venait des arènes.
J'ai regardé tantôt, fait que je vais laisser.
Et c'est vraiment passionnant. C'est que tu as tout montré, suggéré, puis vraiment même... C'est le meilleur moyen, des fois, de comprendre des concept un petit peu difficile. Puis là, dans le cas présent, c'est vraiment des origines de nos jours. Ça parle de la préhistoire de l'Égypte antique, ce que je ne fais pas avec vous aujourd'hui. Donc, si vous voulez compléter, ça sera par là. Donc, je reviens. Grèce antique. Grèce antique. Je me suis amusé à regarder les différents termes que la Grèce antique nous a donnés. Puis je vous les donne comme ça. Androgynie, aphrodisiaque, érotisme, hermaphrodite, homosexualité, narcissisme, nymphomanie, pédérastie, priapisme et bestialité. C'est quand même assez large comme idée, d'autant plus que quand on regarde dans les livres, dans la vie quotidienne, il y avait une plus grande liberté sexuelle. Le film, par exemple, Alexandre, avec Colin Farrell, on voit qu'il est amoureux d'un homme, puis tout ça passe de manière très, très normale. Mais c'est pas étonnant parce que quand on regarde l'histoire grecque, il faut se rappeler de l'histoire de la mythologie. Je ne sais pas si vous avez des petites notions en histoire de la mythologie, Zeus, Hera, toute cette gang-là, tu sais, qui sont dans l'Olympe. Tu sais, dans Astérix et Obélix, on les voit, sauf que ça, c'est la version romaine, mais c'est pas mal la même chose. Puis dans la mythologie, le début de la mythologie, tout est histoire de cul, tout est histoire de sexe là-dedans. Puis d'ailleurs, il y a une très bonne série qu'on peut voir qui est faite par Arte, s'appelle 50 nuances de grec, où c'est basé sur 50 nuances de Grey, bien sûr. Puis c'est toute une histoire avec les dieux grecs, mais version française. Vous irez voir ça sur YouTube, c'est vraiment drôle. Donc,
il va me falloir une liste de notes de tout ce qu'il faut que j'aille checker.
Nous, on pourrait écouter le podcast 4 fois.
Ouais, c'est ça. Donc, je vous en apporte quelques-unes. C'est ça, c'est qu'au départ, de la mythologie, il y avait Gaïa, la Terre, qui va s'allier avec Uranos. Et bon, ils font l'amour, tout va bien. Mais Gaïa va enfanter des monstres. Ça, c'est les géants, les cyclopes, les titans. Puis Uranos va pas être super content. Son mari, donc, il dit, tu prends tes enfants puis tu les ramènes dans ton ventre. Je veux pas de ces enfants-là. Et Gaïa n'est pas super contente, puis elle décide de se venger. Elle va demander à un de ses enfants, qui est Cronos, de couper la verge de son père. Et pendant que Cronos va pénétrer sa femme, son fils Cronos va lui couper le sexe. Le sexe d'Uranos va tomber dans la mer Égée et le sperme va créer toute une série de dieux, et notamment Aphrodite, qui est la déesse de l'amour.
Donc, impossible.
C'est comme ça que ça commence.
Fait qu'elle, elle a un pénis dans le vagin.
Non, c'est elle est née du membre coupé de son père qui est tombé dans la mer.
Oh.
Ça, c'est le début. Puis Aphrodite, elle va avoir beaucoup d'amants. Elle va en avoir un notamment qui va être Hermès. Aphrodite, Hermès, ça donne Hermaphrodite.
Oh.
Et le fils d'Hermès et d'Aphrodite va avoir des seins et un sexe masculin. Et on dit que c'est le symbole parfait de la sexualité et de la femme et de l'homme. Donc déjà, le terme hermaphrodite vient de là. On va ériger des temples à Aphrodite, tellement qu'on va même faire un culte à ses fesses. On organisait en Grèce antique des concours pour savoir qui allait avoir les plus belles fesses parce que Aphrodite avait des belles fesses. Et quand vous allez dans les musées, à gauche et à droite, on voit des sculptures antiques, puis on voit qu'il y avait tout le temps un beau galbe fessier d'Aphrodite. Ben c'est normal. C'était une manière de lui rendre hommage. Mais là, est-ce qu'on le faisait aussi pour les hommes? Ouais. J'ai parlé de priapisme. Est-ce que vous savez ce que c'est que le priapisme?
Ça me dit quelque chose.
C'est quelqu'un qui est bandé de manière tellement intense que ça devient dangereux. Si vous prenez, par exemple, trop de Viagra, votre sexe risque de nécroser tellement il est chargé de sang. Donc, Priap, au départ, c'était un dieu qui, lui aussi, avait un problème parce qu'il est né avec un sexe énorme. Et quand je vous dis énorme, là, il y avait le sexe, le pénis gros comme une jambe. Et disons que ça va plaire.
C'est lequel, ça?
Ça, c'est Priap.
Priap.
Quand on dit de quelqu'un que c'est un vrai Priap, c'est qu'il a un méchant gros pénis.
Oh.
Donc, on va lui vouer un culte et les femmes vont vouloir faire l'amour avec lui sans arrêt. Sauf que les gars... Les maris, en fait, leurs femmes veulent faire l'amour sans arrêt avec Priap, vont dire, ça suffit, Priap, on le fout dehors. On fout dehors Priap, sauf que tous ces gars-là vont être atteints de chaud de pisse. Ils vont avoir le sexe complètement fini et les dieux vont dire, si vous voulez retrouver votre vigueur corporelle et votre vigueur sexuelle, ramenez Priap dans la cité et érigez-lui un culte et des sculptures, et des statues. Donc, on va voir en Grèce antique des statues de Priap avec un sexe turgescent, mais tu sais, énorme. Fait que t'avais des pénis partout. Puis même en Grèce antique, c'était pas rare, et en Rome antique aussi, d'avoir des espèces de mobiles avec des pénis. Quand tu rentrais dans la maison, un pénis, c'était un symbole de fécondité. Donc, t'envoyais partout. Et c'est pas étonnant quand on sait que dans la Grèce antique, toute la mythologie était liée à ça. C'est toujours une histoire de sexe à gauche et à droite. Vous irez voir, c'est très bien raconté dans Sex Story, mais c'est assez intense de voir à quel point tout ça est basé. Bon, je vous ai parlé des phallus, là, ça va. J'avance un petit peu parce que il y a un philosophe, moi, que j'aime beaucoup, qui est Platon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de philosophie au cégep. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Platon?
Platon. Je connais le nom, maintenant.
OK, c'est Avengers. Déjà bon.
Je vais dire c'est quoi ces philosophies-là.
Avengers, Platon. Ben, comme même... Non, mais le même nom dans le Avengers.
Ah, ça, je ne sais pas, par exemple.
Je pense que oui.
On va demander aux gens qui nous écoutent pour vérifier.
Ça fait un lien, là.
Ça se pourrait.
Bon, okay. Ultron, le sphère.
Ah, oui, c'est ça, Ultron, ouais, Platon. Ben, il aurait peut-être dû l'appeler Platon, ça aurait été bon. Oui, non, c'est vrai, je me souviens, là.
Ah, oh, t'as vraiment... Okay.
Non, j'adore tout. Fait. Dans Le Banquet de Platon, qui est un texte, ils discutent d'amour. Puis ils se disent comment on fait l'amour, comment on tombe en amour. Puis là, il y a un personnage, moi, que j'aime beaucoup, qui est un vrai personnage, mais qui est raconté de manière fictive, qui s'appelle Aristophane. Puis lui, il se dit, ben, je vais vous expliquer d'où vient l'amour. Puis je peux pas m'empêcher de vous le citer parce que c'est tellement beau, là. Selon lui, au départ, les êtres humains avaient 4 bras, 4 jambes, 2 visages opposés l'un à l'autre sur une même tête, 4 oreilles et 2 sexes. En gros, il y avait d'un côté homme-homme, femme-femme et homme-femme sur le même corps. Sauf que Zeus s'est dit, ça, c'est pas possible. Il se compare aux dieux. Il est en maudit, fait qu'il a envoyé un éclair pour séparer les corps en deux. Donc, toute l'histoire de l'amour vient du fait qu'on recherche la personne de laquelle on, à laquelle on était attaché. Donc, par exemple, un gars qui est amoureux d'un gars, une fille qui est amoureuse d'une fille, inversement. Puis en faisant ça, ça légitime les relations homosexuelles, lesbiennes, hétérosexuelles de l'origine du monde. Je vous dis ça parce que j'ai vu un spectacle qui m'a beaucoup marqué, Edwige et le pouce en furet. Avez-vous vu ça? C'était Benoît McGuinness qui incarnait ça, ça a été au Théâtre du Nouveau Monde, puis il racontait cette histoire-là. C'est l'histoire d'un gars qui ne veut plus être un gars, qui va procéder à une chirurgie et qui raconte son histoire à travers ça. C'est vraiment bon. Bref, vous irez le voir. Ça tourne un petit peu partout au Québec. Bref, on va aussi expliquer les relations lesbiennes parce qu'il va y avoir sur l'île de Lesbos une poétesse qui s'appelle Sappho, Lesbos. Lesbienne, et elle va faire des poèmes pour dire à quel point le sexe féminin est le meilleur qui existe. Et de là part l'idée du lesbianisme. Et le personnage sur lequel j'ai travaillé avant de venir ici, c'est Tirésias, que vous connaissez peut-être, qui est un personnage de la mythologie qui, lui, se promenait, qui est le fils d'une nymphe et qui voit, lors d'une de ses promenades, deux serpents en train de s'enlacer. Donc, il faisait l'amour. Il dit, c'est pas possible. Il prend un bâton, il sac un coup de bâton sur un des deux serpents et il tue la femelle. Et là, il est transformé en femme, avec des seins, un sexe. Il commence à prendre son pied au lit, mais vraiment, là, il trippe. Quelques années plus tard, il rencontre le même couple, en fait, un couple de serpents différents. Il tue encore quelqu'un, un des deux serpents. C'est le mâle. Il se retransforme en homme. Ben triste, le gars, jusqu'à ce qu'arrive une dispute entre Zeus, le roi des dieux, pourrait-on dire, et sa femme, Héra. Et les deux se posent la question. Lequel, entre l'homme et la femme, a le plus de plaisir dans l'acte sexuel? On s'entend que personne ne peut le savoir, sauf Tirésias, qui lui a été femme et homme. Donc, on fait venir Tirésias, puis on lui dit lequel de l'homme et de la femme a le plus de plaisir. Puis lui, il dit, ben là, c'est facile, c'est la femme, de loin. Héra, la femme, donc, de déesse, va être tellement en maudit qu'il ait révélé le secret des femmes qu'elle va lui lancer un sort et va être aveugle. Il ne verra plus rien. Mais là, Zeus va dire, regarde, t'as peut-être rendu aveugle, mais moi, je vais donner le don de clairvoyance. En gros, il est capable de voir dans le futur ce qui va se passer. Et c'est Tirésias qui va prédire à Œdipe qu'il va faire l'amour avec sa mère puis qu'il va tuer son père. Ça, c'est la mythologie.
Il a prédit quoi? Je m'excuse, j'ai juste...
Il a prédit à Œdipe. Œdipe, vous savez, le complexe d'Œdipe, c'est-à-dire on veut tuer le père. Ben, Œdipe, c'est une vraie histoire. Selon laquelle, ben c'est une vraie histoire, c'est de la mythologie encore, selon laquelle Œdipe a tué son père et couché avec sa mère. Et Tirésias, c'est celui qui lui a dit le futur parce qu'il est capable de le voir. Donc, c'est quand même assez intéressant, juste dans la Grèce antique, à quel point les référents sexuels sont encore aujourd'hui extrêmement importants. Puis là, vas-y.
La Grèce antique, là.
Ouais.
La mythologie.
Ouais.
C'est écrit par...
Homère, l'Iliade et l'Odyssée, deux textes fondamentaux. Il y a plein d'autres textes aussi qui existent. Mais tu sais, Homère, le cheval de Troie, ça vous dit quelque chose?
Oui.
Ben, lui, c'est Homère, la guerre de Troie. Il y a un film qui a été fait aussi, Troy, avec Brad Pitt d'ailleurs. Très bon film à voir si vous avez besoin là, d'un peu de virilité pas trop toxique, quoique. Mais on voit justement cette histoire-là. Et tout ça est raconté par Homère. En gros, c'est le récit de l'origine du monde. De la même manière que les catholiques, on se dit comment notre monde a été créé. Ben, on dit Dieu a créé le monde en 7 jours et après ça, il s'est reposé. Après ça, est venu Adam, est venu Ève, etc., etc. C'est comme une mythologie, mais qui est propre au monde grec.
OK.
Puis ça, pour vous situer, ça va environ du 5e siècle avant Jésus-Christ. On est là-dedans.
OK. Homère, on ne sait pas c'est qui.
Homère, on pense que c'est un poète mais on n'en sait pas trop sur lui. Okay. Rien à voir avec les Simpsons, là, parce que je sais que tout le monde a pensé à la référence. Il y en a une là-dedans. Mais si vous voulez vous charger de culture, là, vraiment, l'Iliade et l'Odyssée, c'est un poème épique. Ça a été mis en français moderne. C'est vraiment passionnant. C'est très, très beau.
Mais Homère qui a écrit ça, là, mettons. Oui. Là, puis mythologie, moi, dans ma tête, mytho, ça se rapporte à mythoman, genre.
Ben, ça vient de là. C'est quelqu'un qui se crée un mythe puis qui crée une réalité qui n'est pas vraie, parce qu'on s'entend que les dieux de l'Olympe, ce n'est pas vrai. Là. Mais c'est un ensemble de récits. C'est un ensemble, on dirait du storytelling qui donne sens au monde. Parce que quand tu vis dans le monde dans lequel tu es, tu as besoin de comprendre pourquoi tu souffres, pourquoi tu es heureux, pourquoi tu fais telle chose et non pas d'autre. Ça structure le monde et la religion a cette fonction-là. Mmh. Ce qu'on appelle mythologie à l'époque, c'est une religion avec des prêtres, des prêtresses, des temples, et on va donner des cultes, par exemple. On va demander à Aphrodite de tomber amoureuse de la bonne personne. On va demander à Héphaïstos, par exemple, de bien travailler les forges. C'est comme tout un ensemble référentiel vers lequel tu te tournes pour comprendre et agir dans le monde. C'est ce que vont faire les Romains. Les Romains, c'est la même chose. En gros, la Grèce et la Rome antique, ça se chevauche. C'est-à-dire, c'est dans le pourtour de la Méditerranée, on est dans la botte italienne, c'est là que l'Empire romain va se définir. Ils vont reprendre exactement les mêmes dieux, mais ils vont les renommer, tout simplement. Plutôt que parler de Zeus, on va parler de Jupiter. Mais c'est les mêmes référents. Donc, c'est encore une fois une affaire de sexe qui se base là-dessus. Mais les Romains, au départ, ça fêtait pas mal. Tu sais, aujourd'hui, il y a une des fêtes qu'on aime beaucoup, c'est Noël. J'imagine que vous le savez, là. Mais au départ, ça vient d'une fête qu'on appelle les Saturnales, parce que les Romains aimaient ça, se laisser aller. Puis ça, c'était 7 jours, 7 nuits où on jouait, on baisait, on s'amusait. Si on est loin de Noël aujourd'hui, là, ça fait ça en famille, ça vous appartient. Mais il n'y avait pas d'interdit. On pouvait faire ce qu'on voulait à Rome. Puis parlant de ça, là, les gens se laissaient aller. Wow. Puis les fameux phallus dont je vous parlais, là, on en voyait partout, partout. Il y avait moins le côté pudique. Aujourd'hui, dans l'espace public, si tu vois des phallus qui bougent à gauche, à droite, là, on en a un en moton là, à côté, ici. Là. Mais avoir des phallus dans l'espace public, ce n'est pas bien vu. À l'époque, au contraire, c'était normal. La sexualité était beaucoup plus assumée. Mais avec la Rome antique, tu vas voir un système qu'on va appeler le système de droit romain qui va édicter une règle qui va perdurer jusqu'à très longtemps, voire juste malheureusement jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le patriarcat. En gros, l'homme domine la femme. Et ça, on le voit dans l'adultère. L'adultère, ça va être de plus en plus réprimé. On voit la constitution des sociétés, notamment par la répression de l'inceste, de l'adultère. Et là, les peines encourues vont être de plus en plus graves. Pour un homme, c'est pas bien grave. Parce qu'on se dit que lui, il faut qu'il teste sa sexualité. D'où la raison pour laquelle on va retrouver des lupanars, donc des lieux de prostitution, où l'homme va s'amuser avec la femme. Et là, la femme, dans les lieux de prostitution, elle a le droit de chevaucher l'homme. Alors que dans l'espace privé, la femme, en gros, elle fait l'étoile. Elle subit, elle est le réceptacle du sperme. Mais dans le lieu de prostitution, là, c'est le lieu du plaisir. Puis on se dit, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce que le sexe est lié automatiquement à la reproduction et pourquoi on ne prend pas du plaisir? Parce que quand on regarde les animaux, ils prennent du plaisir pour du plaisir. La masturbation existe chez les chimpanzés, c'est difficile à dire ça. Tu parlais de ma voix tout à l'heure, je me suis bien accroché là. Mais donc, on se dit, comment ça se fait que le plaisir n'est pas simplement n'existe pas en lui-même? Eh bien, c'est là qu'on va voir comment la structuration de la société va changer, parce que dans la Rome antique, on veut justement que le mariage fonde la famille et que tout acte sexuel soit lié à la reproduction de l'espèce. C'est tout. Donc, le plaisir pour le plaisir, ben vous allez le prendre ailleurs, tout simplement.
Ah, puis c'est vraiment... C'est vraiment bizarre parce que, justement, ça fait pas tant longtemps, ça fait pas tant d'années qu'on le sait, mais c'est le clitoris sert uniquement au plaisir. Fait que pourquoi on aurait été créé avec un clitoris qui sert juste pour le plaisir si on pouvait pas avoir de plaisir.
Oui, puis ça va être un problème. Là, j'avance un peu dans l'histoire, mais tu sais, toute la notion de la masturbation va être extrêmement réprimée à travers les âges. On va même inventer des systèmes pour que les garçons et les filles ne se touchent pas la nuit. Il va y avoir des espèces de ceintures de chasteté pour les femmes en fer, pas des ceintures de chasteté pour empêcher de faire l'amour, mais vraiment pour empêcher de se masturber. On va enfermer le sexe dans des boîtes pour pas qu'on touche. On va également, dans certains dortoirs, faire des plaques en métal qui séparent le corps en deux pour qu'on ne se touche pas le sexe. Et dans certains cas, on va aller jusqu'aux électrochocs pour empêcher les masturbateurs de s'y adonner ou encore par l'ablation du clitoris. Oui. Malheureusement, ça existe encore aujourd'hui. Mm-hmm. Dans certains pays, la femme n'a pas à avoir du plaisir, elle n'est qu'un ventre. Et de prendre du plaisir pour du plaisir, c'est considéré comme immoral. Mais dans la Rome antique, pas nécessairement. On peut avoir du plaisir pour du plaisir. Il va même avoir un auteur, Ovid, excuse-moi Lisanne, je te donne un autre texte à lire, qui s'appelle « L'art d'aimer ». Et ça, c'est un très, très, très beau texte qui date de la Rome antique où il dit, en fait, voici comment bien aimer votre femme. Voici comment bien faire les choses. Voici comment faire de bons préliminaires. Voici comment attirer le feu pour être sûr que justement, que l'incendie pogne. Tu sais, tu commences avec du petit bois, puis tranquillement, clac, tu fais un feu d'artifice complet. Il va même dire aux femmes, il dit, vous avez droit au plaisir. Le plaisir partagé décuple la sexualité. Sauf que tout le monde ne va pas l'entendre de cette oreille-là. Puis on va dire, ben regarde, fous donc le camp. Donc, il va être exilé, malheureusement, de Rome.
Ah ouais.
C'est assez particulier quand même, parce que quand on pense à certains empereurs, peut-être vous avez vu le film Gladiateur, assez marquant au début des années 2000, où on voit des empereurs romains, où quand on pense à des gens comme Néron, Caligula, très connu pour les sévices sexuels auxquels il s'adonnait, les perversions, comme on le dit. Je vous en cite quelques-uns, là. Néron, qui va tuer sa mère, sa deuxième femme après ça, pour prendre une épouse plus jeune, on dit qu'il aimait se prostituer déguisé en femme. On dit même qu'il aurait fait brûler Rome en chantant de la musique. Ça, c'est très, très, très... C'est un empereur.
C'est un empereur qui a existé.
Okay. Oui, là, on n'est plus dans la mythologie. Ouais, là, j'ai quitté la mythologie pour rentrer dans la vérité des choses. Mais il y avait des empereurs qui s'adonnaient à des plaisirs à n'en plus finir. Tu sais, c'est le plaisir pour le plaisir. Jusqu'à ce qu'on arrive, puis là, je vous ai parlé de la religion catholique tantôt.
C'est ça, l'adultère jusqu'à la religion catholique.
Ça dépend. Ça dépend. Pour les femmes, c'est très mal vu. La femme, c'est toujours considéré comme un vol de propriété. Parce que dans le droit romain, quand tu te maries avec quelqu'un, la femme, elle t'appartient. Mm. Donc, ça, j'avance un peu dans le temps, mais tu sais, du Moyen-Âge jusqu'au 18e siècle, le viol, par exemple, n'existait pas techniquement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une femme qui disait « je me suis fait violer » n'avait pas le droit d'aller se plaindre aux tribunaux. C'est l'homme qui allait aux tribunaux qui disait « ma femme s'est fait violer » parce que c'est un vol de propriété. Et pire encore, selon les médecins de l'Antiquité, pour qu'il y ait enfantement, donc pour que l'enfant naisse, il faut qu'il y ait mélange de deux spermes, le sperme masculin et le sperme féminin. Parce qu'on pensait que c'était le mélange des deux spermes qui va créer la vie. Donc, une femme qui dit « je me suis fait violer » et qui a eu un enfant, on va lui dire « tu es une menteuse ». Parce que pour avoir du sperme, il a fallu que tu jouisses. Donc, tu as joui, tu as pris du plaisir, tu ne t'es pas fait violer. Toute cette symbolique-là perdure encore malgré tout aujourd'hui. Tu sais, quand on dit « elle l'a bien cherché », regardez comment elle s'habillait. C'est le même procédé qu'il y avait à l'époque selon laquelle la femme est une propriété qui appartient à l'homme et c'est à l'homme de se plaindre. La femme ne possède pas son corps. Il y a un très beau livre qui a été écrit par Georges Vigarello qui s'appelle « L'histoire du viol » où on voit que ce processus-là est encore en formation. Puis bon, j'ai pas besoin de vous dire, quand on regarde le Me Too, là, le nombre de personnes qui disent « je me suis fait violer », puis ils disent « ouf, t'avais juste à faire attention des affaires comme ça ». Bref. Mmh, ouais. Mais j'en arrive là, justement à la religion, parce que... Non, mais arrêtez-moi, au contraire, là. Ça me fait du bien de reprendre ma salive.
C'est fou, là, de comprendre... de comprendre de où ça part, là.
D'où on vient, c'est ça.
Je pensais que c'était la religion qui avait amené l'aspect un peu... que la femme est une propriété de l'homme. Je pensais que c'était moins pire, que la religion t'arrivée avait mis ça pire.
C'est des processus qui s'emboîtent les uns les autres. Tu sais, c'est jamais un élément qui fait que tout d'un coup, tout débloque. En revanche, c'est vrai que tu as des textes de loi, des fois, qui structurent les choses. Mmh. Mais la religion catholique, ça va être déterminant. Mmh. Tu sais, quand on dit pudeur, chasteté, on va associer la sexualité à la luxure. Puis on va même dire, oui, il faut croître et multiplier, comme on peut lire dans les évangiles, mais il faut le faire sans plaisir. Bref, il faut simplement faire la chose. Puis on va même, il y a même certains grands personnages qui vont dire, là, pour faire l'amour, on a inventé des chemises de nuit avec un trou au niveau du sexe pour la femme. C'est là que ça se passe, puis c'est tout. Il y en a même qui vont dire, ça se passe dans le noir, faut pas voir le sexe, faut pas voir les seins, rien, vous faites l'acte et c'est il va avoir toute une structure et une grammaire fondée par la religion catholique pour dire aux gens, le corps, on met une chape de plomb là-dessus, c'est le lieu du péché. Se toucher, la masturbation, c'est péché. Faire l'amour pour l'amour, c'est péché. Avoir une volonté ou un désir en dehors du mariage, c'est péché. Donc, on est encore, nous, aujourd'hui, redevable de ça. Tu sais, tous les problèmes qu'on a à dire les choses, dire les mots, trouver. Tu sais, je l'utilise depuis tantôt, je parle de l'acte, je parle de masturbation. J'essaie de faire attention pour pas trop choquer par les termes. Ouais. Toute la moralité qui est la nôtre aujourd'hui vient de la structure judéo-chrétienne, comme on dit, donc de la religion. Et pourtant, dans la Bible même, on retrouve des éléments qui suggèrent que les étreintes, les caresses, le plaisir... C'est bien vu. Une des parties de la Bible qui s'appelle le Cantique des Cantiques, on le chante magnifiquement bien. Mais ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir des pères de l'Église comme saint Augustin, Thomas d'Aquin, qui eux vont dire là, vous arrêtez tout ça. On touche à rien. Donc, on va avoir des pères de l'Église comme saint Augustin ou encore Thomas d'Aquin qui vont dire que le corps, c'est le lieu du péché. Il faut s'en détourner. Mais c'est intéressant parce que avant ce qu'on appelle le 11e, 12e siècle, il était permis aux prêtres, aux religieux, d'avoir une femme. Donc, il n'était pas rare non plus de voir le prêtre complètement sous, faire l'amour. Mais là, on va se dire, là, ça suffit, là, il faut structurer tout ça, il faut empêcher d'avoir un corps qui pêche. Donc, ce qu'on va se dire, c'est qu'il faut un lieu pour que la sexualité se déploie. Et ça va être le mariage. Le mariage chrétien, au départ, ça se faisait loin de tout le monde. C'était pas nécessairement public. Là, on va dire, non, c'est une cérémonie publique qui se fait devant tout le monde. La famille est là, puis le sexe se passe là. On va même dire que ce qu'il y a de plus important pour une femme, c'est son honneur. Ce qu'il faut dire par là, c'est sa virginité. En gros, une femme ne peut pas faire l'amour avant le mariage. Et même... En France ancienne, à l'époque du Moyen-Âge jusqu'au 16e siècle et même après, il n'était pas rare que la première nuit de noces, imaginez là, votre première nuit de noces, se passe. Vous êtes assis, des fois vous rencontrez votre gars pour la première fois, et là il y a le prêtre qui est dans la chambre, les deux familles qui sont là et qui regardent l'acte se réaliser. Et pour être bien sûr que l'hymen de la femme a été perforé, on regarde le lendemain sur le drap. Et s'il y a un peu de sang, on prend le drap et on le met à la fenêtre pour dire « Voilà, le mariage a été consommé. » Disons que c'est une structure très forte. On est loin de ça aujourd'hui.
C'est enlever tout l'érotisme de ce que ça pourrait être.
Mais tu as exactement raison. Il ne faut pas avoir d'érotisme parce que le sexe ne sert qu'à une chose. Procréer. Puis on se dit, si on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, ça va être n'importe quoi. Mais on va se rendre compte, par exemple, que les gars, eux, ils ont comme un désir beaucoup plus fort. Tu sais, un jeune garçon adolescent, là, ça fait n'importe quoi. Donc, on se dit, il faut les cadrer parce qu'on va retrouver certains cadres, notamment des viols collectifs. Des viols collectifs de la fin du Moyen-Âge jusqu'au début de l'époque moderne, on va avoir des gens, par exemple, des jeunes garçons, ce qu'on appelle les royaumes de la jeunesse d'un village qui veulent exercer leur pulsion sexuelle. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que pendant que les garçons d'un autre village vont être dans les travaux des champs, ils vont entrer dans ce village-là puis violer collectivement les femmes. Donc, on va dire, c'est pas possible, ça. Il faut encadrer ça. Donc, on va permettre de plus en plus les lieux de prostitution. On se dit que c'est un mal nécessaire. Et même, puis là, c'est quand même assez ironique, l'Église. L'Église va avoir des bordels et va entretenir des prostituées, bien qu'elle est la première à dire qu'il ne faut surtout pas avoir du sexe pour du sexe. C'est quand même assez ironique. Hein?
C'est dans quelle optique que l'Église s'est dit il faut couper le... Tu sais, c'est quoi la raison? Que ce soit juste pour se procréer, c'est tout.
Ben, parce que c'est dangereux, parce que si tu laisses les corps aller dans leur plus basse extraction, ça revient à être une bête. Et le but de la religion, c'est de s'élever vers un état de grâce, un état de méditation, de bénédiction. Et en plus, quand tu regardes dans le rituel chrétien, on ponctue le tout, pas par des fêtes orgiaques, mais simplement par des fêtes de dévotion. En gros, c'est une forme de religion qui structure. Tu n'as pas le choix. Okay. Regarde, même Noël aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on mange, on boit, on s'amuse. Avant, c'était pas ça pantoute, là. Avant Noël, c'est que tu allais le soir à la messe, tu te couchais, puis d'attitude, tu n'avais pas de cadeau. Ça, c'est pas avant la fin du 19e siècle où les grands manufacturiers se sont dit, là, faudrait créer un peu de consommation. Puis c'est là qu'on a mis en place le Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais avant, c'était très sobre, Noël. C'est parce que quand tu regardes dans les évangiles aussi, quand je dis les évangiles, c'est la Bible, le Nouveau Testament. Tout est organisé pour fonder une société dite morale. Les sept péchés capitaux, il faut s'en éloigner. Puis dans un des péchés capitaux, c'est la luxure. La luxure, qu'est-ce que c'est en gros? Ben, c'est faire l'amour jusqu'à plus soif. C'est nous éloigner de la figure divine que de se concentrer uniquement sur ses désirs bassement matériels. T'as le corps et t'as l'esprit. Au corps, la religion va préférer l'esprit, la réflexion, l'ouverture. Et la musique va le permettre aussi notamment. En gros, on dit, si vous faites l'amour sans arrêt, vous êtes une bête. Donc, vois-tu comment ça, c'est insidieux, cette affaire-là, un peu comme de l'Inception. Mm-hmm. Tranquillement, on est en train de vous distiller une idée qui, encore aujourd'hui, existe. Quelqu'un qui va s'adonner au plaisir pour le plaisir, c'est quelqu'un qui est amoral, voire immoral. Mais, puis là, j'avance un peu dans l'histoire, on en arrive à la Renaissance, 17e, 18e siècle. La Renaissance, c'est quelque chose de complètement nouveau. Ça, grossièrement, c'est le début de l'imprimerie, c'est les grands artistes que sont Michel-Ange, Léonard de Vinci, Donatello, toutes les Ninja Tortues, si vous préférez. Mais tous ceux qui vont créer cette magnificence, cette magnificence des corps. Oui. Puis là, on se dit, le Moyen-Âge, ça a été un lieu où Dieu était l'alpha et l'oméga de tout. Il y avait tout le temps Dieu, puis c'était Dieu qui était le centre de tout. Mais les artistes de la Renaissance vont se dire, OK, on va partir de cette idée-là. Dieu est le centre de tout, mais Dieu a créé l'homme à son image. Donc, l'homme est la perfection. Et donc, admirer le corps de l'homme, c'est admirer Dieu. Donc, on va dire, on va commencer à représenter des corps. Puis on va même dire, ben, considérant que l'homme est supérieur à la femme, c'est ce qu'on dit à l'époque, c'est le corps de l'homme qu'il faut représenter, pas le corps de femme. Donc, les hommes vont avoir une sensibilité homo-érotique beaucoup plus grande. Michel-Ange, on va avoir De Vinci, il va même avoir William Shakespeare, qui va écrire des sonnets qui suggèrent une sensibilité homo-érotique. Bref, c'est l'homme qu'on retrouve nu. Puis là, tu vois des phallus, on revient encore au phallus de tout à l'heure, tu retrouves des phallus un peu partout dans les églises, parce que c'est ça qui est le plus beau. Le David de Michel-Ange, par exemple, où on le voit avec son petit pénis. On le voit, son pénis. Sauf qu'à un moment donné, ça va chier, parce que l'église va dire, là, c'est bien le fun, mais moi, je suis en train de faire la religion, puis je suis en train d'élever l'hostie devant un pléthore de sexe turgescent. Il faudrait peut-être un peu changer tout ça. Puis on va engager un peintre qu'on appelle Il Braghetto, dont la fonction était, dans le Vatican, à Rome, de peindre des feuilles de vigne pour cacher les sexes. C'est de là que ça vient. Ben oui. Parce qu'avant, on les voyait, les sexes à gauche et à droite. Ça va venir après ce qu'on appelle la réforme. Parce qu'il va y avoir un prêtre qui s'appelle Martin Luther qui va dire « Hey, là, la religion, c'est n'importe quoi. Là, on va revenir aux origines premières de ce qu'est la religion. » Puis lui, il va faire ce qu'on va appeler plus tard le protestantisme. Et là, la religion catholique va dire « Hey, wow, là, on se calme. Là, nous autres aussi, on est bons. » Donc, ils vont faire ce qu'on appelle le Concile de Trente. Puis là, ça va être tradition. Conservatisme. On va imposer aux prêtres de porter la soutane pour pas qu'ils se touchent le sexe, parce que c'est dangereux. On va les former dans des séminaires. Le latin va être universellement chanté et raconté. Bref, là tu sais, la contrainte corporelle, là, c'est vraiment au 17e, 18e siècle que là, ça s'impose véritablement. On s'éloigne de cette liberté qu'avaient pu avoir les peintres et la sensibilité italienne de la Renaissance, sensibilité italienne de la Renaissance, je parle du 14e, 15e et un peu du 16e siècle. Mais là, le problème, c'est que c'est toujours une espèce d'aller-retour dans l'histoire. quand je dis aller-retour, c'est que c'est toujours entre contrainte et liberté. C'est deux pôles qui sont présents. C'est rare que dans une période, tu as juste un pôle. Tu en as toujours un autre qui pousse. Puis là, je vous disais là, qu'avec les réformes, autant protestantes que catholiques, on revient à un corps enfermé, loin de tout. Mais tu vas avoir des gens qu'on va appeler les libertins au 17e siècle. Mais là, quand on pense libertin, on se dit « Ah, ça y est, ils vont se laisser aller, les corps vont être dénudés. » Pas de suite. Éventuellement. On va en venir au Marquis de Sade dans quelques instants. Mais au départ, quand on dit libertin, c'est liberté de la pensée, de se libérer du dogme religieux. Donc, en gros, des personnages comme Cyrano de Bergerac, par exemple, étaient un libertin. Il fourrait pas à gauche et à droite, mais il y avait la liberté de pouvoir penser comme il le voulait. Mais au 18e siècle, on va se dire, ouais, mais si on peut penser comme on veut, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas jouir de nos corps comme on veut? Et c'est là que la pensée de la sensibilité, une certaine forme de romantisme aussi va venir avec des corps qui se dénudent, des artistes qui représentent des femmes. Là, autant la Renaissance, c'était les gars, là, on en vient vraiment à la magnificence du corps féminin. Des artistes comme Fragonard, par exemple, qui vont montrer des corps, des baigneuses. Puis souvent, ce qu'on fait pour montrer des corps nus, on va dire, bien, on va peindre des scènes de l'Antiquité, parce qu'à l'époque, il était très, très libre. Donc, on se sert d'une époque pour parler d'aujourd'hui. Il y a une très, très belle peinture que j'aime beaucoup, peut-être que vous la mettrez, ça s'appelle « Les hasards heureux de l'escarpolette ». C'est une peinture de Jean-Honoré Fragonard. Fragonard qui est un artiste français du 18e siècle. Et on voit une femme sur une balançoire, les jambes ouvertes, avec un homme qui la pousse. Mais juste en dessous d'elle, un autre homme qui regarde. Et son regard tombe exactement au niveau de sa culotte. Sauf qu'à l'époque, les femmes ne portaient pas de culotte. Non, non, c'est juste les vieilles qui portaient des culottes parce qu'on disait que tout était en train de tomber. Quand vous enleviez les jupons, vous arriviez directement au sexe. Donc, le personnage en question est en train de regarder le sexe de la personne et en gros, ça suggère un libertinage complet. Elle se fait pousser par un homme qu'on devine être son amant, mais t'en as un autre en bas qui est en train de lui regarder le sexe. C'est vraiment une peinture magnifique qui est conservée à Londres, qui est toute petite. Puis cette époque baroque du 18e siècle est carrément là-dedans. Faites-vous plaisir. Et c'est là que la littérature pornographique arrive. La littérature pornographique n'est pas neuve du tout. Là, on s'entend, on pourrait même retourner jusqu'à l'Antiquité. Mais avec l'invention de l'imprimerie, là, on va en avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et c'est souvent un modèle type. Tu sais, des fois, quand tu regardes de la pornographie, tu dis, bon, c'est le livreur qui arrive, votre affaire est brisée, je vais la réparer. Oh, mon Dieu, vous êtes nus, allons-y. Même affaire au 18e siècle. Ça commence par un roman initiatique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a aucune connaissance sexuelle, qui souvent commence dans les monastères, fait l'amour avec un homme, des fois avec des animaux, pour en arriver finalement à la femme. Parce que comme il a une expérience sexuelle, il est capable de donner le maximum de plaisir à la femme. Des très, très, très beaux livres qui existent là-dessus, c'est sans doute « Les liaisons dangereuses » de Choderlos de Laclos, qui a été adapté aussi à plusieurs reprises. C'est l'histoire de deux personnes. Ça a été adapté par Stephen Frears, si je me souviens bien, avec John Malkovich. Et en gros, ces deux personnes, un gars qui enchaîne les conquêtes à gauche et à droite, qui n'est pas vraiment attaché. Puis une femme qui va lui dire « Ben écoute, je te donne un défi. Faut que tu te séduises telle personne. » Mais tu sais, c'est la pire des religieuses, une nonne presque. Puis lui, tout le défi du roman, ça va être non seulement de la séduire, mais de lui faire tomber tous ses idéaux religieux. Le livre est magnifique. Vous irez voir le film, sinon, là, c'est vraiment comment jouer avec les gens. Tu sais, c'est quasiment de la psychologie de base. Certains vont aller plus loin. Et là, bien sûr, c'est celui qu'on appelle le divin marquis, le marquis de Sade, qui a donné le sadisme. En gros, lui, il va prendre l'idée de bonheur, puis il va dire, OK, selon le 18e siècle, il faut atteindre le bonheur. Fine. Mais dis-moi, là, le bonheur, il est plus large. Il a le droit à la jouissance. Et il va édicter ça comme le premier droit que l'on doit avoir. Et il va aller plus loin, il va même dire, j'ai le droit de jouir de ton corps. Et pour y arriver, il va raconter le tout dans de nombreux textes, des romans comme « Les 120 journées de Sodome »,« Justine »,« Juliette »,« La philosophie dans le boudoir ». Et lui, ça va souvent être par flagellation, par violence qu'il veut faire arriver les femmes à la jouissance. Des corps enchevêtrés, 7-8 corps. Puis il a fait des gravures aussi dans ses textes. Non seulement on lit la chose, mais il dit là, la représentation des corps dans l'espace, là, c'est un peu compliqué pour savoir qui enfile où, à quel endroit, avec quelle poulie. Puis quand vous regardez ça, vous dites, mais mon Dieu, quelle grande créativité que cet homme qui veut absolument jouer de toutes les manières. Malheureusement pour lui, c'est pas au goût de tout le monde. Donc, certaines femmes qui ont subi ces sévices, il était pas rare qu'ils prennent une bougie et qu'ils laissent tomber la cire chaude sur la femme, puis elle n'avait pas payé pour ça, ou elle n'avait pas signé pour ça, donc elle va se plaindre. Il va même empoisonner certaines femmes en disant que c'est des aphrodisiaques. Elles vont aller se plaindre. Il va se retrouver en prison à plusieurs reprises. Il va mourir en prison aussi. Et il va écrire la majorité de ses textes en prison. D'ailleurs, les 120 journées de Sodome, il écrivait ça sur un rouleau que personne ne pouvait trouver. Il y a un film, excuse-moi, je t'en rajoute encore.
Regarde, avec... vrai, j'espère qu'il y a une colle qui me met au moins des petites notes. Ouais.
J'enverrai la liste après.
S'il vous plaît.
Et ça s'appelle Quills, et on voit l'histoire du Marquis de Sade, justement, qui est un pervers, n'en plus finir. Il y a aussi une adaptation qui a été faite des 120 journées de Sodome, qui, comme son nom l'indique...
Seigneur, pour vrai, il faut dans la biographie, parce que je suis pas la seule, c'est sûr, qui va vouloir aller voir tout ouais, ce
mais il y a un film de Pasolini là-dessus, si vous voulez pas voir les... si vous voulez pas lire le livre, mais le film est très, très, très dur, faut le dire, là, très graphique aussi, et c'est ce qui va donner le terme sadique, justement. J'en arrive au 19e siècle. Puis je vous disais tout à l'heure, c'est toujours un aller-retour. Tu sais, c'est entre contrainte et liberté. Le 18e siècle a été un siècle libre, un siècle de sensibilité, de sexualité. Mais là, autant le 19e siècle, c'est celui de la révolution industrielle, du romantisme, autant ça va être celui du retour de la pudeur. En gros, on s'est dit là, les robes étaient libres, c'est le retour du corset. Tu sais, le corset qui comprime le corps à un point tel que des fois, tu as de la difficulté à respirer, mais aussi qui donne la poitrine qui s'écrase. Ça, on l'avait au 18e siècle, mais on va la cacher. Tout ce qui est de peau ne doit pas être vu parce que ça suscite le désir. C'est un retour, encore une fois, d'une certaine forme de moralité. Mais... ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir différents cultes qui vont naître, notamment le culte de la Vierge. On avait déjà parlé que la femme devait être vierge, mais là, ça va être élevé à un niveau extrême. En gros, non seulement elle doit être vierge, mais elle doit se marier en blanc, symbole de sa pureté. La femme devient la reine domestique. L'homme, lui, travaille à l'extérieur, la femme s'occupe des enfants, ne fait que ça et doit se vouer à l'homme. C'est ce qu'on appelle la théorie des sphères séparées, qui est encore aujourd'hui existe. T'sais. Quand on a un enfant, c'est souvent la femme qui reste à la maison. Le gars travaille aujourd'hui, par chance, s'est remis en place. Mais quand tu regardes, ça reste généralement accepté. Puis ça vient beaucoup de là. Mais là, je vous parle surtout des classes aisées. Pour les classes populaires, quand t'as pas une scène, tout le monde travaille, tout simplement. Puis plus encore, l'enseignement sexuel dans les classes populaires est assez différent. Tu sais, aujourd'hui, on a tous notre chambre. Les gens vont se coucher, point final, puis t'es libre de faire ce que tu veux. Quand t'as pas une scène, c'est tout le monde dans le même lit. Ce qui veut dire qu'un couple qui décide de faire l'amour, ça se peut que les enfants soient là. Quand on est un peu plus riche, on dit aux enfants, allez coucher avec les domestiques. Donc, les domestiques couchent avec les enfants, et il est pas rare que les domestiques testent ou s'amusent avec les enfants. Mmh. En revanche, quand eux sont plus vieux, les enfants, ben, ils vont utiliser leur domestique pour se faire plaisir. Et on dit qu'un domestique appartient physiquement, pas physiquement, mais moralement à son maître. Donc, il a le droit de le faire travailler comme il veut. Et aussi le travail sexuel. Puis c'est intéressant, c'est encore une fois, cette espèce de tension-là, c'est jamais ni blanc ni noir que cette histoire de la sexualité. Il y a toujours un moment où est-ce qu'on se dit « Ah, ça y est, ils sont libérés. » Pas vraiment, ça revient. « Ah, ça y est, ils vont laisser tomber les robes. » Pas vraiment, ça revient. « OK, ça y est, là, les femmes, l'adultère, c'est un peu plus toléré. » Pas du tout. Puis au 19e siècle, c'est la même chose. J'ai pas beaucoup parlé de prostitution, mais c'est un des métiers les plus fondamentaux. Mmh. On disait dès le Moyen-Âge que jouir en payant, ce n'est pas grave. Ça se peut. Donc, si tu payes, ça va. Mais c'est pour les hommes. Bien sûr, pour les femmes, la prostitution, c'est celles qui ont été laissées de côté. Et c'était pas rare, parce que quand je vous disais tout à l'heure que l'hymen, la virginité, l'honneur, c'est ce qui est le plus important pour une femme, quand elle se fait abuser, quand elle se fait compter des menteries, puis elle se retrouve à ne plus avoir son humaine, ne plus avoir son honneur. Elle est donc remise au public. Ça devient une fille publique. D'où le terme qu'on associe de fille publique à une prostituée. Elle ne fait plus partie de la société honnête bourgeoise, elle est publique. Et là, qu'est-ce qui lui reste? Ben, devenir prostituée, vendre son corps. Ça, c'est pour les pauvres. Pour les riches, c'est pas la même chose. Parce que les femmes qui ont de l'esprit, qui ont de l'intelligence, vont devenir, elles, courtisanes. Et vont gagner énormément d'argent. Tu sais, juste pour te donner une idée, là, au 19e siècle, une courtisane pouvait toucher à peu près 10 000 francs par mois. Oui, par mois.
Puis c'est quoi une courtisane?
Une courtisane, c'est celle qui a de l'argent, en fait, qui se fait payer par des riches financiers, des banquiers, des appartements, qui se fait amener à l'opéra à gauche, à droite. Mais c'est une prostituée. En gros, c'est une prostituée qui se donne aux plus riches. Mais je dis 10 000 francs par mois, le salaire normal, c'est à peu près 40 à 60 francs par mois. C'est pour te donner une idée à quel point ces femmes-là, tu sais, elles débloquent. Mais la prostitution, ça reste illégal. Mais c'est jamais les courtisanes qui vont se faire arrêter. Ah tiens, j'ai une référence pour toi dans Moulin Rouge. Je sais pas si vous l'avez vu, le personnage de Nicole Kidman, Satine. C'est une courtisane qui se donne aux plus riches. Le personnage d'Ewan McGregor est amoureux d'elle, mais il n'y a pas une scène. Ewan McGregor?
Ouais.
Mon Dieu, merci, je vais le prendre.
Excuse-moi.
Non, ça me fait plaisir. Lance-en des compliments, je vais en prendre. Mais c'est là que tu vois que selon que tu sois riche ou pauvre, comme disait La Fontaine, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. En gros, quand tu es riche, tu as de l'argent, tu ne seras pas inquiété par la police. Mais si tu es comme dans Victor Hugo, le personnage de Fantine, je pense que c'est ça, là, qui était joué par Anne Hathaway, qu'on voit dans le livre Les Misérables de Victor Hugo. Quand tu es une prostituée de bas étage, ben, tu vas te faire amener par la police, tu vas te faire tondre, tu vas te faire amener dans des hôpitaux pour te rééduquer en quelque sorte. Selon que tu sois riche ou non, ben, c'est ça qui va conditionner ton rapport à la sexualité puis rendre le tout acceptable ou non. Puis on est encore aujourd'hui là-dedans. Le 19e siècle a fondé aussi tout un ensemble de pratiques de pudeur. Mais, paradoxalement, cette société qu'on appelle aussi la société victorienne, qui vient de la reine Victoria, qui a régné, en gros, sur la Grande-Bretagne de 1837, si je me souviens bien, aux années 1903 ou 4. Je me souviens plus exactement des dates, là, j'ai vu de mémoire, mais en gros, sur un gros
c'est
chunk du 19e siècle, elle va imposer un système, un certain culte de la maternité.
Laquelle, ça?
La reine Victoria. Qui, elle, va dire « Ayez des enfants, c'est important ». Mais de l'autre côté, ce qu'on a su, c'est qu'elle aimait ça prendre plaisir aux pieux. Tellement que son mari, le prince Albert, on raconte qu'il avait un anneau pénien qui s'était fait perforer le gland. Et lui, un de ses problèmes, c'est qu'il avait des érections soudaines. Donc, en pleine cérémonie officielle, là, tout d'un coup, ping! Il y a le membre viril qui pointe au nord, puis il y va. Puis pour éviter ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'attacher l'anneau pénien à la cuisse pour pas avoir ses érections. Bref.
Comment qu'on sait toutes ces choses-là?
Parce que les gens parlent, les gens racontent, les gens écrivent. Tu sais, en histoire, tu travailles pas sur le passé, tu travailles sur les traces du passé. Pas de traces, pas d'histoire. D'où la raison pour laquelle sur la culture de la sexualité populaire, on connaît beaucoup moins de choses. Mais quand t'es riche, t'as le luxe de pouvoir raconter ta vie. Puis quand t'es riche aussi, les gens parlent sur toi, donc racontent des choses. C'est pour ça qu'on en sait autant. Il y a plein de choses qu'on connaît pas, là.
Les gens, c'était ça le fun, c'est raconter des histoires, là, à toutes les...
Ouais. On n'a rien inventé avec les potins.
J'imagine là, que, tu sais, aujourd'hui, on fait pas ça, là, on se raconte pas des histoires, mais dans le temps, c'était ça le fun, non?
Ouais. Qu'est-ce qu'on sait? Peut-être que dans 50, 60, 70 ans, l'histoire de la sexualité dans les années 2020 va être étudiée à la lumière de votre podcast, pour savoir comment on pratiquait la sexualité. Non, mais c'est vrai, tout devient matière à source. Puis c'est ça l'intérêt. Mais si vous regardez dans le livre Sex Story, c'est assez drôle de voir à quel point ça n'a pas évolué tant que ça. On est tout le temps pris avec une moralité ambiante, puis un désir très, très fort de réaliser, puis on dit « Non, ça, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce qu'on m'a dit que c'était interdit. » Puis on n'arrête pas de dire « Il faut des cours de sexualité. » Puis c'est drôle parce que moi, j'ai deux enfants, puis on a reçu il n'y a pas longtemps la liste de ce qu'ils allaient apprendre sur l'histoire de la sexualité. Puis tu te rends compte, tu dis « Ça, Les gens ne le savaient pas à l'époque. Fin du 19e siècle, les filles qui étaient dans le culte de la virginité arrivaient et étaient traumatisées par leur première nuit de noces. On leur avait pas dit comment ça va se passer. Ils savaient pas ce qu'étaient les menstruations. Il y avait du sang qui sortait d'elles, puis ils disent « Maman, je suis en train de mourir. » Puis il y avait pas de serviette sanitaire. On prenait une espèce de système avec des linges. C'est pas avant le 20e siècle que ça va exister. Pourquoi? Tout ça parce que le corps est le symbole, ou plutôt le lieu du péché. Il faut pas y toucher. Puis encore aujourd'hui, le contact corporel est vu comme quelque chose qui heurte, qui brise, qui casse. Tu sais, moi, je me souviens, ils nous avaient montré une vidéo quand j'étais, je suis né en 1979, puis quand j'étais au primaire dans les années 80, ils nous mettaient une vidéo où est-ce qu'on entendait cette toune. Peut-être que les gens qui nous écoutent, ça va leur dire quelque chose. C'était « Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien ». Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Moi, ça me dit quelque chose.
Puis nous, on avait rajouté « Mon corps, ce n'est pas le tien. Si tu y touches, tu vas avoir un coup de poing ». Ça, c'était nous qui l'avions ajouté. C'était comme un consentement avant l'heure. Mais essayer de nous faire comprendre que notre corps nous appartient. Puis encore aujourd'hui, c'est comme ça, puis une chance. Mais ce que tu vois, c'est qu'il y a une foule d'interdits qui pèsent sur notre sexualité, sur notre corps. Puis l'histoire, ça ne se sert pas juste à plonger dans le passé pour dire « voici comment il faisait à l'époque ». C'est au contraire pour s'en libérer. C'est une manière de dire « tout ça est une construction sociale historique qui n'a pas de valeur rationnelle. Pourquoi je ne prendrais pas du plaisir, par exemple, dans la masturbation ?» La masturbation, c'est l'élément par excellence. On vous l'a dit, puis on l'a entendu à ce podcast-là, là, la masturbation rend sourd. On l'a tout entendu, cette idée-là. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Mais pourtant, on nous répétait ça petit, puis en disant « Non, faut pas que je me masturbe, je vais devenir sourd. » Puis « Hein, quoi? » Pourtant, c'est une chose tout à fait normale, accessible. Mais il va y avoir, dès le 18e siècle, plein de traités pour dire que c'est dangereux. Mais à l'opprobre religieux, on va bientôt rajouter celui de médical. On va dire c'est dangereux médicalement parce que si on laisse partir trop de semences dans le cas de l'homme, vous allez être moins capable de procréer. Donc, ne vous masturbez pas. Gardez votre semence pour qu'elle soit utile pour procréer. Une semence perdue, c'est la nation qui va avoir des enfants en moins. Alors qu'avant, on disait une semence perdue, c'est des âmes que le Seigneur va avoir en moins. On est encore dans cette logique-là. Puis, à ce que je sache, puis ça, je serais curieux parce que, bon, j'ai pas regardé dernièrement, mais quel est notre rapport à la masturbation dans le monde contemporain? Tu sais, on parle d'Internet, on parle de cybersexe. Ben, la pornographie a changé énormément notre rapport à la technologie. Puis aujourd'hui, Internet, ce que les gens regardent le plus, puis ils le disent pas, c'est de la pornographie. Il y a une espèce de non-dit. On a encore cette chape de plomb pour dire « Oui, oui, j'en regarde. » Puis c'est bien rare. En même temps, je suis pas spécialiste de la chose, mais est-ce que les gens ont une facilité de parler de pornographie sur Internet pour dire quelle est votre consommation? Y a-t-il une consommation saine? Y a-t-il une consommation dangereuse? Est-ce qu'on légitime ça? Puis pourtant, c'est ce que les gens regardent le plus. Puis c'est ce que je vous disais tout à l'heure. T'sais, comment on fait pour faire l'histoire de ça? Bien, si on regardait dans notre société contemporaine juste ce qui est au-dessus de la vague, on se dirait, mon Dieu, mais quelle société de pudeur pudibonde où le sexe est relégué à la chambre domestique puis il n'y en a pas vraiment. Bien, c'est pas vrai. On le sait tous. Quand tu regardes dans les tréfonds, quand tu regardes dans l'historique des gens, tu fais « Hop là! » C'est plus olé olé que ce qu'on pensait. Puis ça, c'est ce que cette histoire-là nous permet de voir. Ce n'est pas neuf. C'est encore cette tension entre on a une pudeur, mais on a un désir qui est extrêmement fort. Puis toutes les sociétés se sont toujours demandé comment concilier le désir à la procréation. Puis là, on sait que médicalement, bien, tu peux avoir un désir sans avoir de volonté de procréer. Et pour la femme, ça a été fondamental. Dans les années 50, l'invention de la pilule, on ne dira jamais à quel point ça a été une libération sexuelle pour la femme, parce que dorénavant, on n'était pas enclin ou à avoir nécessairement des enfants quand on faisait l'acte, parce que des fois, on ne connaissait pas nos règles, on ne savait pas comment ça existait. Il y avait la méthode Ogino, où on disait, bon, ben, tu évalues selon ton calendrier à quel moment tu ne dois pas faire l'amour pour ne pas procréer. Mais avec la pilule, là, c'était OK, on peut faire l'amour comme on veut. D'où la raison pour laquelle il y a eu une révolution sexuelle des années 60 et 70, une volonté du féminisme de prendre possession de son corps, parce que non seulement on contrôle son corps, mais on contrôle aussi le moment où on veut avoir des enfants. Même chose pour le droit à l'avortement. Il y a eu une magnifique série qui a été faite sur Chantal Daigle. Je le sais, Chantal, mais puis j'ai fait une... Mais ça, c'est sur Crave. Ouais. J'ai fait une vidéo aussi sur l'affaire Chantal Daigle d'une femme qui voulait se faire avorter en 1989. On lui a refusé. Tu sais, c'est en 1989. On parle de l'arrêt Roe versus Wade aux États-Unis, mais au Canada, encore aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui veulent restreindre, voire empêcher le droit à l'avortement. Et tout ça, c'est un...
Trump.
Oui, mais pas juste, même au Canada aussi. Mais ça procède d'une longue prise en charge du corps féminin par les femmes. Puis tu sais, il y en a qui disent « Oh, moi, les féministes, mais c'est parce que tu comprends pas c'est quoi le féminisme. Mmh. » En gros, si on dit « Toi, t'es un gars, tu peux pas faire, tu peux pas jouer de ton corps comme tu veux, puis tu vas avoir des enfants, c'est les autres qui vont décider. » Je suis pas sûr que les gars seraient bien d'accord avec ça. Mmh. Puis tout ce processus-là de libération des dogmes religieux, médicaux, c'est en formation, et même juridique, j'ai envie de dire. Mais vous irez le voir, ça s'appelle « Désobéir », l'histoire de Chantal Daigle sur Crave, c'est 6 épisodes. C'est vraiment passionnant, puis on se dit, hey, ça s'est passé au Québec. Puis nous, tu sais, on se gonfle le torse en disant, on est progressiste, on est ouvert, on est des latins au Québec. Tu sais, ben non, on est souvent des maudits conservateurs du dernier degré.
Ah, oui.
Puis on n'est pas prêt à laisser la femme vivre libre. Puis encore aujourd'hui, c'est juste le mot féminisme fait peur malgré tout. Puis ça, c'est un problème. Puis tu te dis, comment on fait pour arracher cette notion de féminisme qui est contre les hommes, ben tout simplement revenir à l'histoire. Revenir à l'histoire permet de comprendre les luttes qui ont été faites dans le passé, de la même manière que le syndicalisme. L'histoire du syndicalisme permet de comprendre que, hey, une chance qu'ils se sont battus, sinon, là, tu travaillais 7 jours sur 7, les enfants de 6 ans commençaient à travailler dans des conditions ignobles, ils se faisaient arracher le bras par une tisseuse, il n'y avait aucune compensation, il leur restait juste à mendier pour le reste de leur vie. Faut revenir dans le passé pour comprendre l'évolution qui a été la nôtre.
Sacrement.
C'est fou, mais c'est vraiment... Puis est-ce que le... les c'est vraiment, vraiment incroyable. Pour vrai, je pourrais en écouter 100 ans. Tu disais que les femmes, il n'y avait pas le droit de se masturber et tout, là, mais il y a eu un film là, sur Netflix là, sur la masturbation avec les jouets dans le temps, là.
Ah, je l'ai pas vu, ça.
Non.
Non.
Comment le vibrateur a existé. Pas le vibrateur, mais le dildo, là.
Ah, c'est pas William Masters, ça? C'est Masters of Sex? Est-ce que c'est celui-là?
Je sais pas c'est quoi le titre, mais est-ce que tu sais de où ça part, ça? Puis quand est-ce qu'on a eu le droit de...
Mais il y avait pas un moment où tu pouvais aller voir un psychologue, c'était le psychologue.
C'était l'hystérie, quand tu souffrais d'hystérie.
Ben, l'hystérie, ça, c'est très drôle, parce qu'on disait qu'une femme est hystérique parce que la manière dont on pensait que le corps humain était fait, c'est que l'utérus bougeait dans le corps. Et plus l'utérus bougeait dans le corps, plus la femme devenait hystérique. Utérus hystérique. Donc, en langue française, on ne peut pas dire qu'un homme est hystérique parce qu'il n'a pas d'utérus. Puis on donnait cette condition sociale qui était une condition psychologique, qui était doublée de... Puis ça, c'est Freud, hein, carrément, fin du 19e,
non,
début du 20e
non,
siècle. Il est intéressant, Freud, mais il était très critiqué, tu sais, avec ses différents stades, parce que Freud présupposait une sexualité aux enfants, ce qui était très problématique pour la société de l'époque. Mais au-delà de ça, il est quand même assez fondamental, Freud, pour comprendre notre rapport au sexe. Je suis pas d'accord avec plusieurs des éléments, là, parce que... Mais tu sais, le concept oedipien qui est intéressant, je vous ai parlé d'Oedipe tout à l'heure, de vouloir tuer le père symboliquement pour s'affranchir d'une figure tutélaire, ça c'est très intéressant. Mais faut rappeler aussi que Freud en a fait des vertes et des pas mûres, notamment il donnait de la coke à ses patients en disant qu'elle allait mieux. Là. Lui-même en a fait pas mal. Là.
Ça doit être pour ça, il s'est dit, moi ça marche. C'est ça
va aller mieux pendant 15 minutes, après ça il faut s'en reprendre d'autres.
On juge pas, on juge pas.
Mais non, mais c'est ça, c'est les femmes qui souffraient d'hystérie ou whatever, là, ils les masturbaient, puis là, après ça, il allait mieux.
Oui, il y en a. On a pensé que de masturber une femme, ça allait les aider, comme à un moment donné, les femmes qui avaient des problèmes de santé mentale, on les mettait sur une chaise, puis on le faisait tourner en disant, après, tu vas aller mieux, puis il n'y aura pas de problème. On pensait qu'il y avait un problème physique, il fallait répondre par un problème physique. Puis tu sais, toute la notion de santé mentale aussi n'était pas du tout prise en charge par les médecins. Écoute, les premiers anxiolytiques, c'est pas avant les années 50-60, là. C'est très récent, notre connaissance médicale des processus internes, puis même le point G. Encore aujourd'hui, il y en a qui ne sont pas sûrs, ils ne savent pas si ça existe, le point G. Puis la notion de plaisir, encore une fois, qui n'est pas évaluée comme ça
se
devrait.
Je pense que c'est juste, ils ont juste comme déterminé, le point G, c'est juste, c'est le clitoris interne. Fait que c'est juste que Mais moi, je continue de l'appeler le point G parce que je trouve ça plus facile à identifier comme point G interne puis clitoris. Mais ça reste qu'il existe pareil. C'est une région à l'intérieur. C'est plus ça que... C'est que je trouve que c'est important de différencier les deux là, parce que c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur.
Oui.
Mais c'est ça. Pour la masturbation, là, je parlais de ça, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que les personnes qui souffraient de maladies mentales ou whatever, ouais. On les masturbait, puis eux, ils allaient mieux, OK, supposément. Fait que
c'est... Ben, c'est la décharge d'endorphines, c'est sûr que ça aidait,
c'est
ça. Oui.
Ouais. Ben, oh, oui,
il y a
fait...
un processus physiologique qui fait que quand t'as fait l'amour, tu vas bien.
Exact.
Puis ça aide, ça, c'est sûr.
Ouais. Il devait se ramener au « mais c'est pour les bêtes ». T'sais, fait que c'est un problème de santé mentale, puis il faut te régler avec la masturbation.
Oui, il y a une animalisation complète, puis une bestialisation complète de l'acte sexuel qui est pris. T'sais, on revient à l'état de bête. Et c'est là que ça trouble avec notre société vernie, bien encadrée, où les rapports sociaux sont polis. Ça nous ramène à l'arrière, puis c'est vu comme quelque chose de dangereux pour plusieurs. Puis encore aujourd'hui, tu sais, quand pas besoin d'aller dans Handsman Tale, mais on a l'impression que les gens qui ont une liberté sexuelle vont amener le désordre parce qu'ils brisent la structure de la même manière que les couples homosexuels, pour eux, brisent l'ordinaire. Tu sais, l'histoire du mariage pour tous en France qui a fait une levée de boucliers conservateurs, ou les dragues, ou les trans, on les voit comme des problèmes, alors que quand tu regardes dans l'histoire, tu fais « Hey, il n'y a rien de neuf là-dedans. » Tu sais, historiquement, on est capable de faire des liens avec tout ce qu'il y a eu. Tu sais, Tirésias, c'est un trans, carrément. Ça pourrait être le dieu ou la déesse trans. Fait que tu vas chercher dans l'histoire pas nécessairement un élément pour légitimer ce que tu es, mais pour comprendre que c'est pas une génération spontanée. Il y a jamais rien qui arrive pour rien, puis il y a rien qui arrive tout d'un coup comme ça. Puis c'est ça l'intérêt de travailler là-dessus. Puis c'est le rapport à la masturbation dont tu parlais est très intéressant, parce que, tu sais, comme je te disais, moi, j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, là, bon, il y a des dildos en arrière de vous ici.
C'est rare, là. Dans un podcast qu'on voit des dildos en arrière.
Ben, justement, c'est rare, ce rapport-là au corps est en train d'être d'une forme de réappropriation, d'adaptation par rapport à la jeune génération qui est beaucoup plus libre, beaucoup plus fluide, beaucoup plus ouvert. Alors que, tu sais, c'est drôle, je mangeais avec une de mes amies qui est lesbienne, qui, elle, ont regardé des trucs à la télé, puis elle me dit, j'ai regardé Sex Education, puis elle dit, c'est ça, à mon époque, il ne pouvait pas en avoir des affaires comme ça pour que moi, je me sente plus en lien avec mon monde. Il y a une ouverture beaucoup plus grande qui facilite la définition de soi. Puis les gens qui s'attaquent aux gays, aux trans, aux dragues, tu te dis, mon Dieu, avez-vous un problème avec ça? En quoi ça vous heurte? Parce que ça, c'est ça la grande question, tu sais, c'est que cette sexualité qui était cachée, elle est simplement mise au grand jour, mais il n'y a rien de neuf dans l'histoire par rapport à ça. Puis les sources du passé nous permettent de le révéler.
Tu parles de, tu sais, du fait qu'à chacune des époques, il y a tout le temps comme le ballon. Puis parce que j'essaie de m'imaginer c'est quoi avoir une tête qui est au courant de l'histoire, parce que j'ai pas cette tête-là. Puis là, j'imagine que si j'avais cette tête-là qui est au courant de l'histoire, ce serait plus facile de me projeter et de m'imaginer à l'avenir. Mettons, m'imaginer où est-ce que ça pourrait aller à la prochaine étape. Toi?
Hey, mon Dieu, quelle belle question. Puis c'est bien amené en plus. C'est... Je sais pas, parce que sincèrement, si les historiens avaient le don de clairvoyance, on serait pas mal plus riches. Puis ça serait. Mais je le sais pas, je le sais pas. Tu sais, tout change, puis je crois pas que l'histoire se répète. Moi, je trouve que des fois, ça s'arrime, comme disait Mark Twain, mais ça se répète pas. Parce que, tu sais, autant la tension dont on parlait tout à l'heure, on n'avait pas prévu les réseaux sociaux, on n'a pas prévu l'intelligence artificielle, on sait pas à quoi ça va ressembler. Tu sais, le cybersexe avec même la réalité augmentée, la réalité virtuelle, en quoi la sexualité va être changée par ça, je le sais pas. J'en ai aucune idée. Je pense que la meilleure manière de demander, c'est les gens qui travaillent dans le quotidien actuel, parce qu'ils sont déjà en train d'inventer le futur. On aurait tort de penser qu'un historien va nous prédire l'avenir puis qu'il va l'avoir. Lui, c'est qu'il arrive à démonter.
Tu connais les patterns un peu. Oui, je sais que l'histoire se répète pas nécessairement, mais il y a quand même des patterns qui se répètent, là, de chercher un peu le milieu, là, de tout le temps s'en aller à gauche, à droite.
Oui, ben tu sais, moi, la tension que je vois, puis c'est ce que j'ai essayé de vous dire depuis tantôt, là, c'est que c'est toujours on and off. C'est à un moment donné, grande libéralisation, whoop, moment de contrainte. Puis moi, ce que je vois en ce moment, c'est un moment de contrainte qui revient de plus en plus.
Tu vois plus ça.
Ben, on parlait de Trump, on parlait des conservateurs au Canada. On revient dans des... où les attaques contre ce qu'ils appellent le wokisme, où la... Tu sais, tout ça, tu te dis, il y a on est en train de cimenter un modèle contre le progressisme, contre, en faveur du conservatisme. Tu sais, un couple, c'est un gars, une fille, point final, leurs enfants, point final. Il y a un modèle qui revient par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que l'autre modèle beaucoup plus libre, beaucoup plus ouvert ne va pas perdurer. Je pense qu'il va perdurer, mais je pense qu'il va toujours être en tension. Ou est-ce que des moments, ça va remonter, ça va redescendre, mais il n'y a jamais un qui va gagner par rapport à l'autre. Je pense que c'est ce qui définit notre société. Tu sais, il y en a qui disent il faut mettre à bas la police, il faut décalisser l'Assemblée nationale. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Il y a des modèles de droite comme de gauche qui se maintiennent, qui sont en tension, puis je pense que c'est nécessaire. Je ne suis pas de ceux qui considèrent que les gens qui ne pensent pas comme moi doivent être mis de côté, au contraire, parce que toi-même, tu n'as pas la vérité absolue. Puis c'est par la confrontation, une certaine forme de confrontation, que tu vas arriver à créer quelque chose. Mais je n'ai pas répondu à ta question, je suis désolée.
Non, mais c'est correct. T'sais, je me demandais si tu avais juste quelque chose...
Qui me tenait en tête.
Oui, pour toi, tu sais. Mais j'ai vraiment l'intention d'aller d'aller piocher dans ta tête sur ta chaîne YouTube. J'ai vraiment...
Ben, y en a beaucoup de vidéos sur la sexualité.
Mais même sur l'histoire en général, parce que, tu sais, je t'écoute parler, puis je trouve ça tellement impressionnant du fait que ça vit tout dans ta tête.
Mais là, j'ai travaillé pour vous. Là. Quand vous m'avez lancé le mandat,
non, j'ai mais fait, quand même, ça va être le fun. On te pose une question, puis tu le sais, c'est quoi qu'elle faisait à une Victoria en quelle année? Là?
Ben non,
ça
mais là, c'est...
Bon sens. J'ai envie d'avoir accès à un peu de ça.
Ah, c'est gentil.
Puis, c'est sûr, je vais aller voir ta chaîne. Puis, tu sais, juste quand je fais autre chose, là, mettre une vidéo en fond, c'est sûr, 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 sûr.
Ben, ils sont en podcast aussi. Je les ai mises en.
Ah, ouais.
Oh, oui, c'est sur Spotify, Apple, tout. Parce que pour les gens qui sont visuels, d'autres qui sont plus auditifs.
Le nom encore, l'histoire.
C'est l'histoire nous le dira. Oui, tout est sur toutes les plateformes.
Ben, incroyable. C'est sûr, je vais aller regarder, écouter. C'est sûr. C'est
moi, je me suis toujours dit que. Pourquoi je m'intéresserais à ce qui est... Moi, je suis une fille de présent, tu sais, mm-hmm. vraiment. Puis même pas le futur, tu sais. Moi, je suis très présent. Puis je me suis toujours dit pourquoi je m'intéresserais à ce qui s'est passé dans le passé. Mm.
Que ça explique tellement mais c'est, de choses. Ouais.
Ça nous libère, en fait. Ça nous libère. Tu sais, il y a un très beau livre que ton chum connaît qui s'appelle Sapiens. Mm-hmm. Et je trouve que c'est la métaphore parfaite. Il parle du gazon. Il dit comment ça se fait qu'on a du gazon devant les maisons? Puis il dit, c'est très simple, il dit, c'est que à l'époque médiévale, les grands seigneurs avaient tellement de terre, ils étaient tellement riches que devant leur château, ils mettaient du gazon pour dire au monde, « Hey, j'ai tellement d'argent, je vais mettre devant chez nous quelque chose qui sert à rien.
Oh, » wow.
Fait que ce modèle-là, dans les banlieues, puis moi, je viens de Sainte-Foy, à Québec, là, tu sais, maintenant, je regarde le gazon, puis je fais, « Ça sert à rien. C'est juste vrai. Pour envoyer le message. » Fait que, sachant ça, tu fais, « Ben, je peux m'en libérer. » Sachant que ça sert à rien. Ça sert
c'est
à rien.
Bon.
C'est un modèle. Fait que c'est carrément ça.
Mais c'est quoi tu mets si tu mets pas du gazon maintenant?
Tu mets de la roche. Tu mets, je sais pas, tu fais ce que tu veux. Tu mets de la terre, tu mets des fleurs.
Ouais, des fleurs.
Je sais pas, tu sais, tu peux tout. Mais pourquoi on tombe notre gazon? Tu sais, en Californie, ils ont plus d'eau pour mettre de l'eau sur les gazons tellement c'est la sécheresse. Tu fais, ben, enlevez-moi ça. Mettez autre chose. Adaptez-vous. Puis c'est là que tu dis, OK, c'était juste un gars à l'époque médiévale qui faisait ça.
Vous autres, vous avez besoin de vos terres pour faire de l'agriculture?
Ben oui, mais tu pourrais
moi,
faire...
Moi, j'en ai même pas besoin parce que je suis plein.
Pourquoi tu plantes pas des carottes devant chez vous à Sainte-Foy ou à Boucherville?
Ben, j'ai plein d'argent, pas besoin de ça. Pas besoin de vendre des carottes.
Mais là, vous allez voir maintenant, vous n'avez pas regardé, vous allez regarder le gazon d'une autre manière.
C'est
maintenant.
Fou.
Et hey, puis c'est vrai, là, tu sais, mettons, moi, mon gazon versus mes deux voisins, c'est pas le même gazon, tu sais. Les autres, c'est très important.
Le classique, regarder le gazon de ses voisins, c'est bon.
Ouais, c'est
le gazon du voisin est toujours
là,
plus vert.
C'est.
Ou la version que j'aime beaucoup, c'est le voisin est toujours plus vert sur son gazon.
C'est vrai, hein? Mais c'est vrai que ça sert à rien.
Mais non, ça sert à rien.
Wow. On a des questions des gens.
Je suis pas sûr d'être capable de répondre à toutes.
Je crois même pas.
On en fait-tu comme une coupe ici, puis après ça, on l'a fini sur Patreon? Parce qu'il y en a qui
sont déjà 11h30.
OK, on va faire ça vite.
Est-ce que tu es à l'aise qu'on aille sur Patreon après?
Oui, bien sûr.
Oui, on fera un dernier petit 15 minutes.
Oui, bien sûr.
OK, faut que tu sois libéré à midi, c'est ça?
C'est ça.
OK, fait qu'on te prend 15 minutes là, 15 minutes sur Patreon,
go.
Et t'es libéré.
Go.
Parfait. Mais là, OK,
ben,
c'est
l'histoire
ça.
L'histoire du BDSM, mais c'est parce que moi, tantôt, j'avais
ça,
une question.
Ça, je ne sais pas, par exemple.
OK, j'ai tendance à dire que le petit monsieur, tantôt, là, que tu as dit qu'il était...
Le Marquis de Sade.
Sado, là.
Mais je peux vous parler aussi de Sasser Majoche, qui a écrit, qui a fondé ce qu'on appelle le masochisme, qui lui a écrit un livre qui s'appelle « La Vénus sans fourrure », fin du 19e siècle, qui va être utilisé par les premiers sexologues pour définir les catalogues de perversion. Donc, c'est de là que vient le début du masochisme, qu'on va associer le sadomasochisme.
Bien, ça part peut-être de ça d'abord. Oui. Ils se sont inspirés de ça.
L'histoire du 20e siècle, je ne la connais pas, mais le début de ça, là, du Marquis de Sade et de sa sœur Majoche, c'est le fun à
masochiste.
Dire. Masochiste. Exactement, c'est de là que ça vient.
C'est
un flageoleur.
C'est incroyable. J'aime vraiment ça.
Le masochiste.
C'est fou.
Pourquoi les seins sont aussi sexualisés? Est-ce que ça a toujours été le cas?
Bonne question!
Ben, les seins étaient sexualisés parce que c'était l'élément qui était associé à... comment dire? L'enfant mangeait le sein. Oui. Mais de là à dire pourquoi il était sexualisé, il va falloir que je revienne. Il va falloir que vous me réinvitiez pour spécifier toutes ces questions-là. Okay. Parce que j'ai plein de réponses pour toi, mais je suis pas sûr de toutes les données.
Mais je pense j'imagine que ça revient au fait que le corps devait être caché, puis il y a quelque chose que tu vois pas, tu as le goût de le voir.
Il y a ça aussi. Non? Il y a ça aussi. Peut-être. Puis ça avait été aussi les poignets. On a fait la même chose avec les poignets, avec les chevilles aussi. Ouais.
Poignets?
Oui.
Mais oui, les poignets très érotiques,
très, oui. Oui.
Check.
C'est pour ça qu'on met des bracelets.
Mais quand tu caches quelque chose, t'as raison. Quand tu fais un interdit sur quelque chose, ça devient tout d'un coup une volonté de connaître et de savoir de toucher. Dis par exemple que l'objet le plus érotique, c'est le lobe d'oreille. Tout le monde va vouloir toucher au lobe d'oreille tout d'un coup. Et pourtant, ça l'est aussi.
Ben, c'est vrai.
Oui.
Puis là, ici, on a... le travail du sexe, là, ça partie...
Ah, c'est la prostitution, tu sais, j'en ai parlé un petit peu, mais ça a toujours été la prostitution. C'est pas vrai de dire que c'est le plus vieux métier du monde. Non. Je déteste cette formule-là.
Ah non!
Mais non, mais c'est faux. Moi. Il y a une très belle vidéo des Revues du Monde, qui est une youtubeuse en France, qui a fait une vidéo pour dire, arrêtez de dire c'est le plus vieux métier du monde.
Quoi?
C'est pas vrai.
Mais c'est quoi le plus vieux métier? Ah, un bûcheron.
Je sais pas, moi, peut-être. C'est une bonne question. Ben,
le plus vieux métier de la femme?
Ça, je sais pas. C'est une bonne question. Il va falloir aller voir la vidéo, peut-être.
C'est notre premier métier.
Ouais,
on est fait pour ça.
Mais tu sais, dans la prostitution, ça a toujours été imbriqué dans toute la société à travers les âges. Des fois, ça a été accepté, d'autres fois, un peu moins. Mais tu sais, les travailleuses du sexe, il y en a qui ont essayé de les libérer, il y en a essayé de l'encadrer. Mais le 19e siècle, c'est le siècle par excellence de ce qu'on a appelé les maisons closes, où on avait plein de prostituées qui étaient là, les gars pouvaient y aller. Après ça, on a interdit la prostitution. Les filles se sont retrouvées dans la rue au 20e siècle. Puis il y en a qui ont dit c'est une catastrophe, on n'aurait jamais dû interdire les maisons closes. Quand tu peux pas empêcher quelque chose, tu le réglementes. Pour preuve, la marijuana. Ça, au Québec, c'est comme on peut pas l'interdire, on va l'encadrer. Puis plusieurs encore aujourd'hui disent plutôt que d'empêcher mais la prostitution, cadrer ça, les filles vont être mieux traitées, mieux encadrées, puis ils ont droit comme n'importe qui à leur dignité puis à la dignité du travail.
Tu disais là que les courtisanes qui faisaient 10 000 francs dans un mois, elles avaient le droit de garder leur argent.
Complètement.
Ah oui?
C'est comme des femmes entre les deux qui avaient une certaine autonomie, mais tu sais, ça dure le temps qu'elles sont désirables aussi. Mmh. Une courtisane qui après ça, perd sa beauté, disons-le comme
elle
ça.
Elle n'a pas son mari pour prendre soin d'elle.
Retire, il faut qu'elle ait de l'argent pour le faire. Puis des fois, ça se termine bien, d'autres fois, ça se termine plutôt mal.
OK. Je m'excuse, j'ai coupé, c'est juste ça me restait, je me dis, tu sais, les femmes étaient tellement réglementées que c'est sûr que les gens ont fait comme... Ton argent est la nôtre.
Non, c'est clair. Mais c'est pas
fou,
comme ça.
Hein, c'est vrai. C'est
pour
légal.
Pour les plus pauvres, oui, il y avait un pimp qui, lui, prenait l'argent puis gérait le tout. Là. Ça, c'est
si j'avais le choix, dans cette époque-là, je serais une courtisane.
Ben oui, moi aussi.
Tu sais.
C'est payant puis c'est le fun.
Ben oui, puis tu peux avoir plein de jobs.
Des riches banquiers, mais c'est pas dit que c'est nécessairement des beaux banquiers.
Non.
Les gens qui ont de l'argent, c'est pas nécessairement les plus attirants.
Non, c'est clair.
Mais ça reste une vie de contrainte, une vie d'obligation, vie de...
Puis après, comme qui dit, après ça, t'es plus bonne.
Ouais.
Après, ta retraite est 10 ans après.
Si j'avais le choix, je serais à notre époque.
C'est ce que je me dis tous les jours. Je veux pas vivre dans le passé.
Ah oui, même en étant un homme?
Complètement. Moi, je trouve que notre époque est toujours mieux que celle du passé. Puis j'essaie de me dire, puis ça, c'est une philosophie de vie, que nous vivons l'âge d'or actuellement. Ça évite d'être défaitiste de dire, mieux, plus tard, ça va aller mieux. Tu sais, non. La vie, c'est maintenant.
Mais aussi, pour les hommes, le féminisme, c'est pour vous aussi. Là.
Ben oui,
c'est,
mais
ça
oui.
Ça te permet à... Maintenant, tu as accès plus à ta vulnérabilité, tu as accès plus à... Oui. Tu peux plus exprimer comment tu te sens. Ben, j'ai plus besoin de tout garder en dedans, mon pauvre.
Non, puis d'attendre les matchs de hockey pour exprimer une émotion sur 10 ans.
La colère.
Oui, exact.
C'est très bon. OK, une dernière petite question, puis après, ça va être pas très long. C'est parce qu'il y a quand même des trucs que t'as abordés. Mais les moyens de contraception au fil du temps, c'est intéressant.
Ah oui, ça, c'est super intéressant. J'ai une vidéo qui va sortir bientôt là-dessus, sur la contraception, d'à peine 40 minutes. Où est-ce que, dès l'Égypte antique, on retrouvait des méthodes de contraception assez utiles d'ailleurs, mais c'est pas avant le 20e siècle. Tu sais, par exemple, le condom, il existait, mais c'était en peau de boyau de mouton qu'on mettait, ou en poisson. C'était assez dégueulasse. Après ça, pour les femmes, c'est assez complexe. Ils pouvaient se faire avorter dans des conditions affreuses. Il y avait des sérums, des trucs comme ça. Mais disons que ça manquait. Là. C'est vraiment le 20e siècle qui va structurer. Puis comme je te disais, la pilule dans les années 1950, ça va être une révolution complète pour la femme.
C'est sûr. Incroyable. OK, mais on irait sur Patreon.
Okay. Juste, quelle année, je veux juste dire ça. Quelle année qu'on a pu avoir du plaisir sexuellement?
Qu'est-ce que tu veux dire?
Que c'est maintenant correct.
Ben toujours. Ça a toujours été correct.
Mais non, mais tantôt, tu sais qu'on pouvait pas avoir du plaisir.
Mais dans la mesure où les autres le savent pas, tu fais ce que tu veux. Ça, ça a toujours été comme ça.
Ils l'ont pas dit, ils l'ont pas annoncé.
Non. Tu as toujours pu avoir du plaisir. Simplement, c'est que tu vas pas t'en vanter devant tout le monde. C'est ça l'affaire.
Là, ça a évolué, mais ils ont pas annoncé à quelque part que là, maintenant, on va avoir du fun. Techniquement, on peut pas tant. C'est ça?
D'accord? Techniquement, dans la religion, ça, écoute, je me suis pas mis à jour sur les anciens.
Non, dans la religion, je sais, j'étais dans un mariage, puis la religion, puis en tout cas, on a entendu le texte, puis c'était pas ça. On va pas avoir de fun, puis comme tu dis, on appartient à l'homme. Encore aujourd'hui, en 2020.
Oui, c'est ça.
Merci. Merci. Laurent, c'était extraordinaire. J'ai tellement hâte que cet épisode-là sorte, que le monde, que les gens qui te connaissent pas déjà te découvrent. T'es extraordinaire. Puis ce livre-là, je veux l'acheter. Trouver. J'ai écouté tous les trucs que t'as plugués.
Il est en français.
Il est en français.
Je suis une personne très obsessive. Puis je change d'obsession sans cesse. Là, j'étais sur la fin de mon jeu vidéo. Fait que là, je pense que je m'en vais sur l'histoire. Là.
C'est bon.
Merci énormément.
Merci beaucoup.
Est-ce que tu as d'autres choses à plugger, mettons? Parce que là, il y a ta chaîne YouTube.
Il y a le livre, L'Histoire nous le dira, qui est toujours disponible. Le tome 1, puis le tome 2 va s'en venir bientôt.
C'est toi qui as fait ça?
Oui, le livre, L'Histoire nous le dira. Pas celui-là.
Bravo.
Bravo pour tout.
On s'en va sur Patreon. Si vous voulez avoir, parce qu'on a plein d'autres questions, donc si vous voulez avoir les autres questions, on est sur Patreon.
Yay!